Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Ordre et progrès. Voilà qui résume sûrement les aspirations profondes des quelques 150 millions de Brésiliens qui demain, au second tour des élections générales, vont désigner leur nouveau président. Ordre et progrès, c'est aussi la devise nationale inscrite sur le drapeau brésilien depuis la proclamation de la République en 1889, une formule inspirée d'Auguste Comte, le père du positivisme en France, Auguste Comte qui sans doute n'y reconnaîtrait pas les siens. Il y a 15 jours, lors du premier tour d'un scrutin qui incluait aussi dans ce pays fédéral le renouvellement d'une bonne partie du Parlement et des instances régionales, les Brésiliens ont exprimé avec force le rejet du système, leur volonté de dégager une classe politique synonyme pour eux de corruption et de clientélisme au-delà des nombreuses étiquettes partisanes. L'envolée dans les sondages de Jair Bolsonaro à l'extrême droite, aux dépens de la gauche de l'ex-président Lula qui croupit en prison, laisse peu de doutes quant au résultat demain. Mais l'incertitude demeure sur l'interprétation à donner à ces résultats, à l'évolution du régime lui-même, sur les objectifs, les méthodes de celui qui apparaît comme le nouvel homme fort de la plus grande démocratie d'Amérique latine, et aussi sur sa capacité à répondre à tant de colère et d'inquiétude. Les institutions brésiliennes vont-elles tenir le coup? L'armée est-elle en embuscade? C'est ce que nous allons découvrir ce matin grâce à vous, Alfredo Valadao. Vous êtes professeur à l'École des Affaires internationales de Sciences Po Paris, membre du Conseil international du Centre brésilien des relations internationales. Madame Enders, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne du Brésil contemporain, professeure à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. En duplex depuis Lyon, Hervé Théry, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS CREDA et professeur invité à l'Université de Sao Paulo. Par téléphone depuis la capitale économique du Brésil, Francisco Sintra, docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 1, et par téléphone aussi Maud Chirio, qui est maître de conférence à l'Université de Marne-la-Vallée, spécialiste de la dictature militaire brésilienne. Maud, vous êtes en ce moment même à Rio de Janeiro. Monsieur Valadao, je commence avec vous. Il semble que le deuxième prénom de Jair Bolsonaro, c'est Messias. Est-ce que cela veut dire que celui qui, au premier tour de l'élection présidentielle, a obtenu 46,06% des suffrages, est-ce que ce personnage, qui avait été pendant 28 ans un obscur député, est-ce que ce Messias peut véritablement être la révélation politique du Brésil de demain?
Pas vraiment. La question, c'est que c'est une révélation du Brésil d'aujourd'hui. Il faut essayer de le comprendre. Pour ces quelques partisans, oui, les partisans les plus durs, c'est un Messie. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le Brésil s'est retrouvé devant un choix impossible, dans ce deuxième tour et même dans le premier tour, entre des gens qui avaient peur de ce Messie, Bolsonaro, qui pensait qu'il allait résoudre tous les problèmes par la violence et l'autoritarisme, et les gens qui avaient peur d'un retour au pouvoir du Parti des Travailleurs, qui reste, qu'on le veuille ou non, le principal responsable de la pire crise morale, économique et politique du Brésil aujourd'hui, et qu'en plus c'est un parti qui appuie officiellement les dictatures vénézuéliennes et cubaines.
Le Parti des Travailleurs, il faut le rappeler, c'est le parti de l'ancien Lula, président Lula, qui est en prison.
Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas voté pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui avaient peur de Bolsonaro et ceux qui avaient peur du retour du Parti des Travailleurs, ben, c'est ceux qui avaient plus peur du Parti des Travailleurs qui sont passés en tête. Alors, on ne sait pas encore quel sera le résultat demain.
Demain, oui.
Mais de tout semble laisser croire que c'est M. Bolsonaro qui va l'emporter.
Alors, est-ce que ça veut dire que le système lui-même est usé le système qui fonctionne système, avec beaucoup de chaos, il faut bien le dire, mais où l'on a vu, au fond, que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, pour simplifier, ce sont toujours les mêmes groupes privilégiés qui ont tenu le dessus.
Moi, je crois qu'on est en train de vivre un épisode d'une grande crise brésilienne qui est une crise générale, vieille de 200 ans. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est un modèle brésilien qui fonctionnait par une petite élite, de droite comme de gauche d'ailleurs, hein, corporatiste, comme on dit, clientéliste, rentiste, qui fonctionnait par l'exportation de matières premières et une immense inégalité sociale. Et que ce modèle-là, aujourd'hui, ne peut plus se reproduire. Parce que le Brésil est devenu un immense pays, avec 210 millions d'habitants, totalement urbanisé, 85% du pays urbanisé, avec là une population totalement connectée par les réseaux sociaux, beaucoup plus informée, et qui a des besoins et des demandes énormes. Et donc ce système-là ne peut plus fonctionner de cette façon-là. Donc on est dans une crise et on ne sait pas quel doit être le nouveau système. Personne n'a une solution pour qu'est-ce qui va se passer. Donc que ce soit M. Haddad ou M. Bolsonaro qui prennent le pouvoir, ils vont être confrontés à des problèmes immenses de comment sortir de cette crise, qui est une crise qui dure déjà depuis plusieurs décennies et on ne sait pas comment en sortir.
Hervé Théry, cette société très, très divisée, on le comprend, très, très fragmentée, qui a exprimé sa colère en sortant, les sortants en quelque sorte, au premier tour, jusqu'à quel point est-ce que cette société peut produire un renouvellement politique tel qu'il offre des solutions tout en restant dans le cadre du régime ? Autant au niveau présidentiel, mais aussi au niveau des États, puisqu'il y a plusieurs élections, encore une fois, qui ont lieu le même jour, à différents niveaux du système.
Alors, à l'échelle brésilienne, je vais vous répondre juste après, mais je voudrais quand même souligner qu'on est dans cet épisode brésilien et quand même une manifestation d'un dégagisme qu'on a vu à l'échelle mondiale. Il y a eu, après Trump, l'Italie, le Brexit et d'une certaine façon la France, on a aussi sorti les sortants principaux, une sorte de fatigue générale des démocraties, donc l'épisode brésilien n'est pas tout à fait exceptionnel. Quand on a essayé de réparer un peu la situation brésilienne, je pense que les solutions techniques sont assez bien ébauchées. Alfredo le confirmera ou l'infirmera comme il veut, mais on est à peu près certain qu'il faudrait établir un vote par circonscription, on avait le vote par district au Brésil, renouveler profondément la classe politique. Mais le problème, ça ne se fait pas à froid. À chaque fois qu'il y a eu des tentatives de changer le système électoral, le système de financement des partis, de mettre une clause minimum, enfin toutes sortes de choses dont les recettes sont connues, ça n'a pas pu se faire à froid. Si on est optimiste, ce qui est mon cas, on peut se dire bon, peut-être que dans cette crise à chaud, ce sera l'occasion ou de modifier la Constitution, ou en tout cas de changer le système de façon à mettre en adéquation effectivement un système pour 200 millions de Brésiliens modernes et connectés, alors qu'il vient, comme vient le dire Alfredo, d'un système censitaire pratiquement, très ancien, très corporatiste. Donc, peut-être c'est l'occasion.
Alors, il y a, je crois, à peu près 35, au moins 35 partis politiques qui changent de pied et de programme selon leurs concertations, leurs accords ou leur clientèle. D'après ce que je comprends, 50% des députés qui ont été élus il y a 15 jours maintenant sont de nouveaux élus. C'était là des gens qu'on n'avait jamais vus dans les circuits politiques.
Oui, c'est un pronostic qui a été déjoué. On disait il y a encore un mois que comme il n'y avait plus de financement privé d'élections, c'est le fonds qui a été installé avec beaucoup d'argent, de l'argent public pour l'élection, c'était partagé par les politiciens au pouvoir et donc il y aurait un des plus faibles taux de renouvellement de la Chambre historique et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Au contraire, avec ce dégagisme généralisé, il y a beaucoup de ténors qui ont mordu la poussière et il y a eu un très fort renouvellement, 43% je crois de mémoire, de gens dont on ne sait pas grand-chose. Mais c'était un peu le cas en France aussi avec les macronistes. Personne ne savait très bien qui c'était et on le découvre un peu à la fois.
On voit aussi en France et notamment dans les commentaires des médias français, de l'étonnement par rapport au fait qu'il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas de ce qu'on appellerait en France un front républicain contre ce monsieur Bolsonaro qui est manifestement à l'extrême droite. Quelle est votre explication, monsieur Théry?
Je crois qu'appliquer au Brésil et à l'Amérique latine en général les grilles droite-gauche et le fonctionnement tel qu'il est chez nous est imprudent. Je me souviens de journaux de moindre qualité que le vôtre qui disaient « ça y est, toute l'Amérique latine a basculé à gauche ». Et on mettait dans le même sac des gens comme Lula, Michel Bachelet et quelques autres. Donc c'était absurde. Et dire maintenant que tout le monde bascule à droite ou qu'on devrait avoir un front républicain ou que c'est la même situation que Chirac-Le Pen et manquer de mise en perspective. Je pense qu'il faut vraiment analyser ça d'une autre façon. Ça joue naturellement. Il y a je pense que dire que Bolsonaro est d'extrême droite n'est pas exagéré. Mais on ne fonctionne pas exactement dans la politique brésilienne comme dans la politique française.
Ça veut dire néanmoins que donc le candidat du Parti des Travailleurs qui ploie en quelque sorte sous l'ombre portée de Lula, qui lui, on le rappelle, est en prison, donc Monsieur Haddad, n'a pas réussi ou n'a pas cherché à agglomérer autour de ce qu'il reste du Parti des Travailleurs des partis satellites.
Non, à la rigueur, il aurait pu faire alliance avec le parti de Ciro Gomes, ce qui lui aurait ajouté 12%, mais ça ne suffisait pas. Plus une poussière de petits partis d'extrême-gauche, de toute façon, il n'y avait pas le compte. Et le choix qui a été fait, c'était justement de jouer solitaire. À certains moments, je me suis demandé si ce n'était pas de la part de Lula, considérant qu'il valait mieux que le parti sombre et que lui émerge, ou qu'il jouait l'élection d'après. Mais en tout cas, c'est un calcul qui a été fait, qui a permis d'aller au second tour, ce qui n'était déjà pas gagné, mais qui ne va pas suffire, semble-t-il, malgré les frémissements des derniers jours. Si ça passe, ce qui m'étonnerait un peu, je tirerais une fois de plus mon chapeau à Lula sur son flair politique, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Armel Enders, comment expliquer cette lame de fond qui traverse le Brésil, rassemblant des gens de niveau social, de couleur, d'intérêts très différents, en faveur du candidat Bolsonaro?
Alors oui, je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit par Alfredo Valadan au départ, en mettant un petit peu en parallèle et sur le même plan Bolsonaro et puis le Parti des Travailleurs et son soutien officiel au Venezuela, à Cuba, etc. C'est un peu la ligne qui a été défendue et qui explique aussi pourquoi il y a pas ce front républicain. C'est de dire que c'est deux extrémismes et en gros qu'on choisit pas entre la peste et le choléra. Et c'est quand même très biaisé parce que certes, il y a des figures qui ne sont pas négligeables au Parti des Travailleurs, qui continuent à maintenir leur solidarité avec le Venezuela. Mais enfin, c'est pas le gros de l'électorat. Et ensuite, la pratique au pouvoir des gouvernements PT, de Lula ou de Dilma Rousseff, a parfaitement respecté les institutions. Hein. Donc, il a été parfaitement démocratique.
Mais pardonnez-moi,
donc, je pense que c'est quand même très différent.
J'en reviens à ma question. Oui. Comment t'expliquer cette lame de fond pro-Bolsonaro?
Cette lame de fond, il y a une sorte de déflagration qui touche la classe politique, le dégagisme, on le dit. C'est l'effondrement, en fait, l'implosion du système politique tel qu'il existait depuis les années, la fin des années 80, les années 90, c'est-à-dire avec deux partis. Alors, c'est pas un bipartisme parce qu'il y a un émiettement. La structure de la vie politique brésilienne, et je vais y venir dans un instant, est particulière. Mais on avait deux môles, avec d'un côté le Parti des Travailleurs et puis de l'autre côté le Parti social-démocratique brésilien, le PSDB,
qui
a explosé. Parce qu'on parle du PT, c'est surtout le PSDB, parce que lui, le PT a quand même conservé le premier groupe parlementaire à la Chambre. Et donc à hisser son candidat au second tour. Alors que le PSDB est en...
Mais si on s'intéresse encore une fois aux Brésiliens eux-mêmes, oui. Ce qui m'a frappé en lisant beaucoup de reportages dans la presse internationale depuis plusieurs semaines maintenant, on voit qu'il y a des gens, mais vraiment de toutes origines, de tous les recoins du pays, et au départ avec des positions sociales ou des opinions politiques très différentes, et qui disent, mais non, allez maintenant, moi, c'est Bolsonaro. Oui. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, parce que l'ensemble de la classe politique a été frappée de discrédit par les affaires de corruption, effectivement, hein, mais qui ont touché l'ensemble de la classe politique. Le gouvernement Temer, sur ce plan, a été aussi désastreux, hein, parce que ça s'est enfoncé dans les scandales,
etc.
Le président sortant. Et donc, Bolsonaro... Et puis, je crois que ça correspond, finalement, puisqu'il y a une... Il y a beaucoup de choses qui expliquent, hein, cette ruée sur Bolsonaro. D'une part... le fait de dire qu'ils ont tous échoué et qu'il faut essayer autre chose. Mmh. Et je crois que ça renvoie à une sorte de conception foncière, un peu viscérale et très rudimentaire de la démocratie, qui est la démocratie, c'est choisir le gouvernant et le forcer à démissionner s'il ne convient pas. Et comme il y a eu un peu ce mouvement, enfin, comme les dernières années ont montré cela, je pense que dans la tête de beaucoup de gens qui votent Bolsonaro, c'est ben on l'essaye, puis s'il va pas, et ben on le virera lui aussi.
Mais voilà. Néanmoins, la campagne de Bolsonaro, il l'a à peine faite. Alors certes, ouais. Il y a eu le coup de couteau de cuisine, mais il s'en est sorti, heureusement pour lui. Mais ça a été aussi un prétexte pour ne participer à aucun débat télévisé. Une campagne vide, enfin on n'a pas l'impression qu'il ait jamais développé un programme. Et puis on a appris qu'il y avait cette espèce d'usine à fake news, enfin il y en a un peu partout hélas maintenant, avec Steve Bannon, toujours le même, donc le populiste en chef de la campagne Trump qui se réjouit, et l'utilisation du réseau crypté WhatsApp pour véritablement travailler l'opinion en profondeur.
Avec un financement du patronat paoliste, hein, qui a financé cette campagne de manière illicite. Alors, certes, hein, il y a tout ça, cette manipulation, mais ce qui est le plus sidérant, c'est que les gens adhèrent à ce type de fake news, parce qu'on a les fake news qui étaient, enfin, on tourne autour de la sexualité en général, avec le PT veut légaliser la pédophilie, des choses comme ça. Et alors, est-ce que les gens adhèrent à ça, ou est-ce que c'est beaucoup plus radical et on veut, on veut un grand nettoyage? Je crois que l'idée qui fait qu'il y a une coagulation autour de Bolsonaro, c'est cette idée de nettoyage qui est extrêmement dangereuse quand on entend Bolsonaro en parler, parce que lui, il est dans la continuité de la ligne dure de la dictature militaire, qui estime que le Brésil est en guerre contre l'infiltration communiste, hein, et que il faut épurer la population.
L'une des formules de la campagne étant d'ailleurs « il faut nettoyer le pays des bandits rouges ». Maud Chirio, vous êtes maître de conférence, je le rappelle, à Paris-Est-Marne-Lavanée, mais vous travaillez sur le terrain au Brésil, spécialiste de la dictature militaire brésilienne en particulier. Vous êtes en ce moment à Rio. Il faut rappeler donc que cette dictature a tenu en main le Brésil de 1964 à 1985, hein, c'est ça?
C'est ça, oui.
Selon vous, Bolsonaro, on sait que c'est un ancien capitaine, un réserviste, un ancien capitaine à la retraite, si j'ose dire, mais est-ce qu'il y a une vraie filiation entre cette dictature, dont il chante volontiers les louanges, et son personnage? Sinon, son programme.
Absolument. Absolument. Bolsonaro est un pur produit de ce que le régime militaire a produit de plus fascisant, de réseaux militaires les plus fascisants. Pour s'en convaincre, on peut regarder une revue qui est facilement téléchargeable sur Internet, qui est la revue du Club Militaire, qui est la revue des militaires de la réserve, qui, depuis une quinzaine d'années, expose leurs opinions politiques. Si on regarde ce qui est présent dans cette revue, on y trouve très exactement, et depuis une dizaine d'années maintenant, le programme de Bolsonaro, c'est-à-dire une expulsion complète d'une classe politique qui est considérée comme corrompue, mais aussi une réforme des écoles, une militarisation des écoles, une réforme de la Constitution, une répression de l'opposition, bref, tous les éléments qui sont des éléments, en fait, de volonté de réformer complètement la société brésilienne et le système politique. Donc, c'est important, quand on explique le phénomène Bolsonaro, de ne pas réduire le fait à un dégagisme, à quelque chose qui serait occidental au moins, une fatigue, comme dit Monsieur Terry, à l'égard de la classe politique. Bien sûr, le rejet de la classe politique, et en particulier du PT, est fondamental, mais l'antipétisme n'est pas simplement un dégagisme. C'est un dégagisme, d'une part, qui est construit médiatiquement. C'est vraiment extrêmement important de se dire que l'idée que le PT est responsable de tous les maux du pays, comme a dit M. Valadan, que le PT est responsable de la crise morale, de la crise politique, de la crise économique, c'est un discours construit. C'est un discours qui est vendu aux Brésiliens depuis par tous les médias, sans aucune distinction, depuis 3 ou 4 ans, ce qui évidemment ne correspond pas aux réalités des indicateurs économiques du pays, qui se sont extraordinairement améliorés entre 2003 et 2016, et qui ne correspond pas non plus à la réalité de la corruption de la classe politique, puisque le Parti des Travailleurs est un parti corrompu, mais plutôt moins que la plupart des partis.
Oui, enfin, dans l'échelle de la corruption, je vois que notre ami Alfredo Valada boue d'impatience, et je vais évidemment lui demander de réagir, mais revenons à cette filiation, encore une fois, entre Bolsonaro et la dictature militaire. On sait que Bolsonaro est un grand admirateur de Pinochet. Cette dictature militaire brésilienne, elle était quand même moins sévère, si l'on ose dire, que l'Argentine ou la chilienne.
Oui, c'est d'ailleurs ce que les réseaux proches de Bolsonaro lui reprochent. Bolsonaro est issu de réseaux très à droite. Il a été porté par les réseaux de militaires de la réserve. C'est eux qui lui ont permis de rentrer en politique à la fin des années 80. Et la ligne de ces réseaux était, d'une part, de protéger l'ensemble de l'appareil répressif de la dictature de toute mesure judiciaire, ce qui a été un succès, de défendre la mémoire de la dictature et d'avoir un discours sur la dictature selon lequel, finalement, l'erreur de la dictature, ça a été de laisser survivre la gauche et de permettre son revanchisme, c'est-à-dire le fait qu'elle parvienne ensuite par une action culturelle et par une action démocratique à revenir au pouvoir et à gagner la bataille de la mémoire et la bataille politique qu'elle avait perdue par les armes. Donc Bolsonaro n'est pas personnage hors système, c'est pas quelqu'un qui va proposer des solutions pour réformer cette démocratie, c'est quelqu'un qui a un projet extrêmement précis, qui est de mettre en place au Brésil un nettoyage de la gauche, hein, et pas des corrompus, de la gauche. Il est appuyé par absolument tout ce qu'il y a de plus corrompu de la classe politique de droite. Il a prévu de mettre en place un nettoyage de la gauche, bien plus à l'image de ce qui, dans son esprit hein, et dans ses propos, a été mis en place en Argentine, avec la différence qu'il est appuyé par des milices et des militants non organisés, extrêmement convaincus qu'il faut épurer le pays de la gauche, des communistes, des homosexuels et de toutes les communautés qui revendiquent une quelconque différence et des droits spécifiques.
Il y a aussi, semble-t-il, Oui, allez-y, pardon. Oui,
je vous ai interrompu. Il y a évidemment un projet d'extrême droite. Bien sûr que les catégories politiques ne sont pas systématiquement les mêmes et qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'ensemble des équilibres politiques dans une partie du monde se reproduisent ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui est absolument d'extrême droite sur strictement tous les points. La vision des femmes, la vision de la diversité, des orientations sexuelles, la vision de ce que c'est que la couleur de peau et l'organisation des droits des communautés qui ne sont pas des communautés majoritaires. Sur absolument tous ces points, c'est quelqu'un qui est extrêmement à droite et qui a une politique de manipulation des masses qui évoque des régimes fascistes.
D'accord, il y a la manipulation, mais il y a aussi l'adhésion. Vous n'allez pas me dire que, encore une fois, les 46% de gens qui ont voté pour lui au premier tour ont tous été complètement brassés par la manipulation médiatique. Donc il y a bien, encore une fois, ce mouvement d'adhésion fort.
Tout à fait, il y a un mouvement d'adhésion fort, donc c'est pas que de l'antipétisme qui nourrit le bolsonarisme, c'est aussi un mouvement d'adhésion fort. Alors, dans les derniers sondages, on voit bien que le bolsonarisme est très fortement orienté hein, par le fait d'être quand même plus aisé. Hein. Les gens qui gagnent plus de 5 salaires minimum votent 3/4 pour Bolsonaro, alors que les gens qui gagnent moins de 1 salaire minimum votent à 1/4 pour Bolsonaro. Donc c'est un vote qui est qui correspond à une structure sociale et qui correspond à une réaction d'une société extraordinairement égalitaire, extraordinairement ségrégée et raciste, même si c'est pas le même racisme que ce qu'on peut connaître dans l'Occident du Nord, l'évolution depuis 15 ans, évolution d'inclusion sociale, évolution de réduction des inégalités et de réduction symbolique des inégalités. Et si vous parlez à des gens qui votent Bolsonaro, il y a énormément de gens qui vont vous dire, de toute façon, le PT, il a volé l'État, hein, il a détruit le Brésil, ce qui, je rappelle, n'a aucun sens quand on regarde des indicateurs économiques. Hein. Et par ailleurs, le PT a fait venir des vagabonds, a dégradé l'université parce qu'il y a des gens qui ne méritaient pas d'y rentrer, c'est-à-dire les gens qui sont rentrés par des systèmes de quotas d'y rentrer. La grande expression, c'est les aéroports sont devenus des gares routières, hein, c'est-à-dire il y a une rancœur effective, y compris de la part de populations qui ne sont pas des populations franchement d'élite, à l'égard de l'évolution d'une société vers une société légèrement, très légèrement plus inclusive et moins inégalitaire.
Merci beaucoup, Maud Chériau, de nous avoir apporté à chaud, si j'ose dire, cette analyse, et c'est une analyse fondée sur les réalités du terrain à Rio. On part maintenant, par le miracle du téléphone et de la radio, à São Paulo, vous rejoindre Francisco Sintra, vous êtes économiste. Expliquez-nous, de votre point de vue, cette société très inégalitaire, qui se relève avec grande difficulté d'une terrible récession. Je crois que le PIB avait chuté de 7 points en 2 ans, ce qui a été véritablement une chute dans un précipice. Jusqu'à quel point est-ce que l'urgence des défis économiques favorise encore une fois la candidature Bolsonaro ou au contraire complique à moyen terme les promesses qu'il pourrait faire sur ce plan-là?
En effet, le PIB a chuté énormément. C'était une des pires crises qu'on a eues dans l'histoire du pays. Et la reprise, elle recommence avec ténèbres, avec l'inflation maîtrisée, les taux d'intérêt dans son plus bas niveau. Mais en même temps, il y a beaucoup de chômeurs. On a environ 12% de chômeurs de la population active. Et à mon avis, l'adhésion à Bolsonaro a ses racines très fortes aussi dans la volonté et la colère du public d'avoir des conditions économiques meilleures. Parce que même si le Parti des travailleurs pendant 13 ans a fait des énormes progrès dans le social et la montée d'une classe moyenne qui n'était pas là, c'était d'une certaine manière un pays illusoire. Pourquoi ? Parce que les gens ont eu accès à des biens de consommation, mais ils n'ont pas eu vraiment accès à une amélioration dans la sécurité, dans l'infrastructure, dans l'école fondamentale, dans l'éducation fondamentale. Et ils n'arrivent pas à sentir l'amélioration dans l'infrastructure et tout qui les impure.
Et ça avec un niveau d'impôt qui est à peu près celui des pays de l'OCDE, un niveau d'impôt à quoi, à 35%. Mais en retour, il n'y a pas de services publics.
Des prélèvements des impôts et des services publics sont très mauvais. Hein. Ouais. C'est ça que c'est le pire. Hein. Si vous avez besoin d'aller à l'hôpital public au Brésil, c'est incroyable, ça pose énormément de problèmes. Hein. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas l'accès, il n'y a pas des médicaments, c'est très très mauvais. Et les mêmes se passent avec l'éducation publique. Hein. Si on prend pas les universités, on a des bonnes, très bonnes universités, mais c'est toujours l'élite qui va accéder à l'université publique. C'est pas les gens qui vont à l'école publique, c'est la plupart des gens qui vont fréquenter l'école, l'université publique, ce sont des gens qui ont passé toute la vie dans l'école privée. C'est un système qui ne fait que perpétuer l'inégalité dans les pays.
Il y a aussi
des prélèvements d'imposition d'impôts à 35% du PIB. On attendait des services publics de qualité. Ça n'arrive pas. Il faut aussi entamer la taille de l'État qu'on veut dans les pays. Hein. Si on veut ou pas faire des privatisations, combien encore on peut prélever, imposer des impôts, pour combien encore peut-on augmenter dans la société ces coûts qui est partagé, surtout la plupart de ces bénéfices vont pour une classe, pour une élite privilégiée, comme M. Bardin a dit, la subvention pour les corporativismes au Brésil, si on veut les industriels brésiliens, on a des subventions à 4% du PIB qui vont pour des grosses entreprises qui n'ont pas vraiment besoin de ces subventions. Ils ne sont pas concurrentiels au niveau international. Les pays étant des plus fermés au monde, hein. Les flux de commerce, c'est à peu près 24-25%. Si on prend le Vietnam, c'est à 200%. C'est un pays très très fermé. C'est pour ça que la productivité n'augmente pas. Elle est très faible. Ça augmente de 0,7% depuis 20-30 années. Mmh. On n'a pas accès à des technologies de pointe. Ça coûte très très cher. Les biens importés au pays sont toujours chers. Et si on prend des subventions là, ce sont des subventions qui vont à l'industrie comme Coca-Cola. Hein.
Oui, et qui vont et qui vont.
Coca-Cola, il y a un mois à peu près, c'était, ils n'allaient pas maintenir la boîte qu'ils avaient à zone franche de Manaus parce que si la subvention n'était pas renouvelée. C'est une chose bizarre. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'argent pour la santé, mais on donne des subventions aux boissons gazeuses. C'est à aucun sens, hein. C'est toujours les privilèges et une classe et un lobby qui est très très fort. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une forte adhésion à Bolsonaro, parce que les gens croient, c'est pas, je peux rien dire s'il va faire quelque chose ou pas, c'est impossible à dire, même si comme économiste Paulo Guedes, qui c'est quelqu'un de l'école de Chicago, qui s'est fait libéral.
Libéral.
Mais bon, les gens laissent qu'il fasse son boulot. Va-t-il avoir l'appui de Congrès, parce que comme tous les gouvernements précédents, ils ont gouverné par coalition.
Bien sûr.
C'est impossible de gouverner au Brésil sans coalition. Et la coalition, c'est la source de clientélisme et corruption.
Précisément, je vous interromps, Monsieur Sintra. Pardon, Monsieur Sintra, je vous interromps. On vous retrouvera dans quelques minutes. Je voudrais demander à Alfredo Valadao jusqu'à quel point, Alfredo, vous considérez que l'analyse de tous ces facteurs qui concourent, semble-t-il, vers Bolsonaro, qui apparaît sinon comme l'homme miracle, en tout cas, il apparaît comme celui qui ne ressemble à aucun de ceux qui étaient au pouvoir, que ce soit le centre droit de Temer ou que ce soit la gauche du Parti des Travailleurs. Est-ce que Bolsonaro bénéficie en fait de cette espèce de choc qui consiste à dire on veut plus les voir, ni les uns ni les autres?
Ça, c'est évident que Bolsonaro bénéficie de ce choc. Ça, c'est évident. Mais je serais un peu plus nuancé dans ce qui a été dit avant. Quand il y a un séisme politique de cette magnitude, avant d'être totalement pessimiste ou de se poser des questions, des imprécations catastrophistes, il faut essayer de comprendre pourquoi ceux qui ont perdu ou qui perdent les élections n'ont pas réussi à convaincre leurs électeurs à voter pour eux. Et je crois qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué encore ici, c'est la violence. C'est-à-dire que le Brésil a eu 64 000 homicides l'année dernière.
En un an.
Et dans les derniers 10 ans, il y a eu 550 000 Brésiliens qui ont été assassinés. C'est presque le double de la Syrie.
Donc,
les gens commencent à en avoir ras-le-bol de ce genre de choses. Donc, corruption, délitement économique, plus violence a créé un terreau qui a été favorable pour que quelqu'un puisse arriver en disant « je suis un homme neuf et je fais… » Mais…
« Je suis un homme neuf et je suis pour le port des armes à feu. »
Et je vais résoudre ça avec trois coups de revolver et voilà, blablabla. Parce que les gens sont exaspérés, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que quand on dit qu'il y a une adhésion à Bolsonaro, dans un tout petit groupe, oui. Je pense que la plupart des gens qui ont voté Bolsonaro au milieu l'ont voté surtout contre le retour du Parti des Travailleurs au pouvoir. Beaucoup de gens qui votent Bolsonaro disent « oui, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, il peut même être dangereux, mais on en a marre, et voilà, on veut ouvrir une nouvelle étape, on verra bien ce qui va se passer après ».
Mais les autres partis, enfin les partis centre-droit, les partis qui s'arrangeaient entre eux pour former quand même des gouvernements, ceux-là n'ont rien eu du tout.
Du tout, tout le monde est descendu.
Effondré.
D'ailleurs, regardez la composition de la Chambre des représentants. Les deux principaux partis aujourd'hui dans la Chambre, c'est le parti de Bolsonaro qui est passé d'un député à 50 et quelques, plus le PT qui est toujours à 53. Mais ces deux partis, ils ont 11% des sièges chacun. Il y a 30 partis minuscules qui n'ont aucune idéologie, qui ne veulent que manger au râtelier des finances publiques, etc. Donc le prochain président devra négocier, non plus même avec des partis, mais pratiquement député à député.
Et la droite traditionnelle, qui a quand même existé longtemps, elle est pulvérisée. Il y a M. Alkmin, celui, paraît-il, que l'on surnommait Picolé des Chouchous. Ça n'a pas l'air très flatteur.
C'est un sorbet à l'eau.
Un sorbet de choyote.
Un sorbet à l'eau.
Oui, c'est pas très flatteur pour...
Non, mais le PSDB a été totalement laminé, comme tous les autres partis. Le PSDB, on peut pas... Au Brésil, on dit que c'est un parti de droite. En Europe, ce serait un parti social-démocrate centriste.
Oui, c'est ça. En tout cas, encore une fois, tous les partis...
Mais tous les partis ont été laminés. Parce que les gens en ont ras-le-bol d'un système qui ne change pas, quels que soient les gens qui arrivent au pouvoir. Et donc, j'aimerais dire un mot sur l'armée, quand même.
Attendez, on va y venir, parce que je voudrais demander à mon ami Éric Scholl, qui dirige Courrier International, notre partenaire. Éric, comme chaque semaine, vous avez trouvé dans la presse, et notamment dans la presse latino-américaine, des commentaires sur la manière dont l'ascension de Bolsonaro est ressentie à l'échelle de l'Amérique latine.
Elle est ressentie évidemment avec beaucoup d'inquiétude. Les observateurs se demandent comment cette élection du leader d'extrême droite risque de bouleverser l'échiquier politique de la région. On reste évidemment encore aujourd'hui au stade des questions, celles que pose par exemple ce journaliste de La Nation, le grand quotidien argentin. Le virage à droite du Chili et de la Colombie s'élargira-t-il ou verrons-nous une remontée historique qui confirmera le changement de cap vers la gauche initié par López Obrador au Mexique ? S'interroge le journaliste et il poursuit. Quels effets aura le débarquement au palais du Plan Alto, c'est le siège de la présidence brésilienne, d'un dirigeant proche des idées de Trump au lieu de celui qui était censé poursuivre les politiques de Lula da Silva? Comment réagira Caracas si de l'autre côté de ces deux principales frontières, ces deux plus grands détracteurs gagnent en puissance? Le journaliste veut parler du Brésil, de Bolsonaro et de la Colombie d'Ivan Duque, les deux grands voisins du Venezuela. Car c'est vrai, il est difficile d'échapper à l'impact de la crise vénézuélienne qui a servi d'argument électoral à Bolsonaro. Ainsi, le candidat brésilien favori n'a cessé de répéter, là je le cite, « Les gens bien au Brésil veulent se débarrasser du socialisme. Ils ne veulent pas d'un régime comme celui du Venezuela. Nous ne voulons pas que le Brésil soit demain ce que le Venezuela est aujourd'hui. » Alors pour le journaliste de La Nation, c'était clair, la crise vénézuélienne continue de donner le ton sur l'échiquier de la région. Comme il est tout aussi clair que l'arrivée de Bolsonaro à la tête du Brésil n'est pas de nature à rassurer les diplomates régionaux. Interrogé par le quotidien argentin, Michel Lévy, qui est spécialiste des relations internationales à l'université Simón Bolívar en Équateur, explique que si le triomphe de Bolsonaro se confirme, l'Amérique latine verra des relations traumatisantes entre les gouvernements.
Donc cette élection serait-elle le signe annonciateur d'une vague populiste à l'échelle de l'Amérique latine?
C'est la question que pose Cristobal Rovira Calvacer, qui est professeur de sciences politiques à Santiago du Chili. Et dans un article du site Project Syndicate, ce chercheur se demande si la vague du populisme de droite à l'œuvre aux États-Unis et sur une partie de l'Europe ne serait pas en train de toucher l'Amérique latine. Mais non, répond Cristobal Rovira Calvacer, car, je le cite, ce phénomène Bolsonaro n'est pas représentatif du paysage politique d'Amérique latine qui a effectivement viré à droite mais reste modéré. Il prend pour exemple Mauricio Macri et Sebastián Piñera, les deux dirigeants donc brésiliens, argentins et chiliens, élus respectivement en 2015 et 2017, et qui depuis gouvernent, nous dit l'auteur, au centre droit. Même analyse de la part de l'expert uruguayen Andrés Malamud, interrogé par le journal La Nation. Je ne vois pas de schéma uniforme se dégager dans la région, explique-t-il. Le Mexique vire à gauche la même année où le Brésil risque fort de virer à droite. En fait, s'il y a un schéma quelconque, c'est celui de l'hétérogénéité avec certains pays, le Nicaragua et le Venezuela, où la démocratie s'est effondrée, et d'autres, la Colombie et l'Équateur, où elle s'est consolidée. Mais ce paysage politique hétérogène ne retire rien au danger que représente Bolsonaro pour la démocratie, comme l'écrit Cristobal Rovira Calvacer dans Project Syndicate. Si la probabilité est faible que l'Amérique latine, dans sa globalité, soit confrontée à une vague populiste de droite, ça ne réduit pas la menace qui pèse sur le Brésil. Et je laisse la conclusion au journaliste mexicain Jorge Ramos, interviewé par El País. La montée de Bolsonaro au Brésil reflète malheureusement le pire aspect du Brésil et de l'Amérique latine. Sans aucun doute, il y a une énorme déception vis-à-vis de la démocratie dans notre hémisphère.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Hervé Théry, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous enseignez aussi à l'Université de São Paulo et vous êtes avec nous depuis Lyon. J'aimerais que vous éclairiez pour nous une autre dimension qui, par rapport à notre tradition laïque en France, est tout à fait surprenante, qui est le rôle des églises au Brésil. On avait l'idée que le Brésil était un immense pays catholique et on se rend compte que l'Église catholique a perdu énormément de terrain par rapport aux églises évangéliques, les pentecôtistes de diverses obédiences, et ce sont ceux-là qui contribue très fortement, semble-t-il, au succès de Bolsonaro.
Oui, effectivement, l'Église catholique perd environ 1% de fidèles par an, on ose presque dire de part de marché. On pense qu'il y a autour de 18 à 20% maintenant d'évangéliques, quoi. Effectivement, on voit bien que la façon dont ils fonctionnent, dont ils prêchent, dont ils encadrent leurs fidèles va plutôt dans le sens que Bolsonaro représente. Et ils se sont effectivement presque tous ralliés à lui. Et lui-même, bien que catholique fervent et annonçant sa foi de façon aussi brutale que le reste de son discours...
Oui, mais pardon, je vous interromps, si je m'abuse, il s'est fait baptiser évangélique dans les eaux du Jourdain. Il y a quelques années. Enfin, il a changé
Il fait une sorte de cérémonie, effectivement, de ce genre-là, pour se concilier leur bonne grâce. Je pense qu'il est resté quand même catholique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Église catholique, qui a été, sous la dictature militaire, très engagée dans les luttes sociales et prenait vraiment partie des pauvres et des humiliés, a largement arrêté de faire ça, sauf dans quelques domaines bien particuliers, et que donc les classes populaires peuvent... juste titre, considérer qu'elles sont un peu abandonnées par l'Église catholique.
Et là, il y a eu le rôle de Jean-Paul II, qui a nommé, à l'époque, des évêques très conservateurs, hostiles à la théologie de la libération.
Oui, il a enlevé tous les responsables qui étaient un peu dans la ligne de Don Helder Camara ou de gens comme ça, pour les remplacer par des gens très conservateurs. Enfin, au nom de son combat anticommuniste, il a considéré qu'effectivement, il devait changer tout ça, et ce qu'il a fait. Et donc, l'Église catholique a cessé. Et donc le groupe religieux, mais aussi politique, mais aussi de pression de l'intergroupe des évangélicos dans la politique, a pris nettement parti. Les pasteurs, dans leurs prêches, parfois à mots couverts, parfois à mots découverts, encourageaient et donnaient l'ordre, grosso modo, à leur congrégation, à leurs fidèles, de voter pour Bolsonaro. C'est un des éléments, avec le ralliement du patronat et quelques autres, qui expliquent pas tellement l'adhésion populaire, en partie, mais l'adhésion financière qui lui a donné les moyens de faire des campagnes sur WhatsApp et ailleurs, c'est un des éléments. Je voudrais ajouter quelque chose aussi. Je pense qu'effectivement, enfin, je vis au Brésil, j'y étais encore la semaine dernière, et dans mes conversations avec les collègues de l'université, dans ma belle famille, dans toutes sortes de cercles qui sont mes cercles de vie quotidien, je vois des gens dont je n'attendrais absolument pas qui rallient Bolsonaro le faire. Mmh. Parfois en se bouchant un peu le nez, parfois ça, mais par rejet vraiment viscéral du PT, de ce que le PT représente, qui est en partie surconstruit, je suis tout à fait d'accord, et en partie aussi dans des cercles de gens moins riches, par peur de retomber dans la pauvreté. Et on sait historiquement qu'il n'y a pas plus réactionnaire, que c'est le terreau du fascisme et du nazisme, les gens de petite classe moyenne qui ont peur de retomber ou de ne pas garder les bénéfices d'une petite ascension sociale. Ce qui explique ce que vous disiez tout au début, c'est-à-dire un spectre très large d'adhésion, bien au-delà des gens qui ont strictement intérêt, par adhésion politique ou par intérêt économique, à appuyer Bolsonaro. C'est vraiment un rassemblement attrape-tout, par rejet, qui fait qu'il est arrivé à 46% et peut-être demain un peu plus.
Francisco Sintra, revenons rapidement à la dimension économique de ces élections, qui est absolument capitale. Il faut rappeler, encore une fois, que la reprise est très molle, qu'il y a énormément de chômage. Et on voit que le programme de Bolsonaro se résume, si j'ai bien compris, aux trois B, la lettre B, la balle, le bœuf et la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le candidat de l'agro-business. Donc la balle, on comprend que c'est l'arme à feu. Et le bœuf, c'est la viande bovine, dont le Brésil est un énorme exportateur. Monsieur Sintra.
En effet, le plan économique n'a pas eu vraiment un vrai débat. Il n'y a pas un plan très solide. C'est qu'on peut dire que les débats, c'était autour de la morale et de la sécurité. Mais c'est qu'on peut dire, la balle, c'est surtout l'armement. Que si on prend dans la bourse, les entreprises d'armement, elles ont monté énormément les prix. Si on prend les bœufs, on peut prendre le Brésil, un des plus gros exportateurs de bœufs au monde. Mais c'est surtout son appui dans les congrès, ça va être donné par ces 3B, hein. Ça c'est sûr. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, hein. Dans les champs économiques, c'est qu'on a, c'est Paulo Guedes, c'est quelqu'un qui est très libéral, mais on ne sait pas jusqu'à quel point il va privatiser d'une manière humble, si on peut dire. Il a déjà dit que dans la génération d'énergie électrique, il ne va pas privatiser la génération, seulement la distribution. C'est ça qui fait plus peur aussi au marché financier dans ces moments, c'est qu'ils savent pas, s'il ne va pas avoir des collisions entre Bolsonaro et Paulo Guedes. Combien de temps ça va durer cet amour avec Paulo Guedes?
Paulo Guedes est donc cet économiste, parce que Bolsonaro lui-même a dit « Moi, l'économie, j'y comprends rien, mais j'ai cet excellent conseiller ». Mais il y a une autre dimension, Monsieur Sintra, qui est très préoccupante, qui est l'annonce faite par Bolsonaro de vouloir reprendre l'exploitation minière en Amazonie. Les forêts d'Amazonie, on le sait, c'est, comme on dit facilement, le poumon vert de la planète. Il veut aussi réduire les terres accordées aux Indiens. Donc, il y aurait là, en termes d'environnement, et ça concerne la planète entière, aussi une politique délibérément agressive, dirons-nous.
Oui, je pense que c'est en mentalité, que c'est un peu partout dans le monde. Si on voit Trump en train de nier le chauffement climatique, lui, Bolsonaro, qui veut faire la fusion entre les ministères de l'agriculture et les ministères de l'environnement, ce sont des choses absurdes, hein. Et même, presque probablement, ça va pas être possible de faire ça. Il a un discours qui parfois, c'est comme un discours de Trump, on va faire ça, mais on sait pas vraiment. Quel va être l'appui qu'il va avoir dans les congrès pour faire tous ces changements, hein. Et aussi la pression internationale qui va tomber sur le Brésil. En fait, ça ne va pas être facile de faire la fusion entre les ministères de l'agriculture et les ministères d'environnement. Ça, c'est sûr. Hein.
Madame Enders, il y a aussi, on le comprend, des problèmes structurels qui sont socio-économiques, à commencer par le problème des retraites, parce que la population brésilienne vieillit. Et donc, il y a le niveau de la gestion et du financement d'un programme de retraite qui paraît tout sauf véritablement garanti.
Oui. Alors, une bonne partie du déficit, à peu près la moitié du déficit du régime de retraite brésilien, est due aux militaires, hein, et aux retraites dont bénéficient les militaires. Alors, il est évident que ça ne sera pas touché. Alors, le reste, c'est un sujet éminemment explosif, hein, parce qu'effectivement... tous les sondages montrent que les Brésiliens sont très hostiles à une réforme du système des retraites et c'est une des raisons effectivement des déficits publics. Alors Bolsonaro s'est déjà contredit il s'est contredit à peu près sur tout, hein, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'il fera. Une fois que l'élection sera passée. Et donc, parce que le Congrès sous Temer était très prudent en la matière, parce qu'ils jouaient leur réélection, et donc la réforme n'a pas pu passer. Alors là, mystère. En tout cas, ce qui reste du séisme, ce qui reste en place, à mon avis, c'est les vieux traits de la politique brésilienne, hein, ce qu'on appelle le physiologisme, le clientélisme, etc., dont les partis le parti auquel Bolsonaro s'est rallié récemment est exactement au centre de ça. C'est-à-dire que derrière la nouvelle politique, en fait, on a la bonne vieille politique qui, jusque-là, était plutôt un phénomène, finalement, de stabilisation. Mais là, finalement, qui donnera éventuellement, en fonction de ce qu'elle gagne, sans doute, des facilités à Bolsonaro.
Alfredo Valado, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une période d'instabilité assez vite? Imaginons que l'élection demain, donc, je rappelle que c'est une élection multiforme, hein, qui concerne plusieurs niveaux de représentants élus dans un pays fédéral comme le Brésil. Néanmoins, si on se concentre sur le prochain président, que faut-il attendre du rôle de l'armée au moment où cet homme qui passe son temps à exalter la mémoire d'une dictature militaire dont il estime que la besogne n'a pas été suffisamment poursuivie, quel peut être aujourd'hui le rôle de l'armée brésilienne?
D'abord, avant de répondre le rôle de l'armée, c'est savoir est-ce que on aura une période d'instabilité.
Oui.
Alors, tout ça va dépendre de deux choses. Quel gouvernement est possible? Parce qu'un président de la République brésilienne aujourd'hui ne peut pas tout faire. Il ne peut pas gouverner sans le Congrès. C'est pour ça que je suis optimiste sur la résilience et la force des institutions démocratiques brésiliennes, même s'il y a beaucoup de pourriture, etc. Hein, mais bon, elles sont là et elles tiennent le coup. Donc, il va falloir qu'il passe, comme dit Armel, sur la bonne vieille politique. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'on a 30 partis maintenant, et la plupart de ces partis sont minuscules, et ceux qui viennent de rentrer sont neufs. Donc, probablement, il va devoir faire des accords presque député à député, vote à vote. Donc, ça m'étonnerait qu'on arrive à une stabilité de gouvernement. L'autre question, c'est l'opposition. Est-ce qu'il y a une opposition possible? Donc, est-ce que c'est possible de sortir du « eux contre nous », qui était la position du Parti des travailleurs, et de trouver une opposition qui soit démocratique, propositive, qui défende les institutions démocratiques, etc. Ça dépendra aussi beaucoup de ceux qui n'ont pas voté Bolsonaro et de ceux qui sont dans l'opposition, de savoir comment ils réagissent vis-à-vis de ça. Quant à la question de l'armée, je crois, je connais un peu de cette affaire, moins peut-être que Maud, l'armée brésilienne aujourd'hui n'est pas l'armée de 64. Ça, c'est une chose absolument fondamentale.
Vous voulez dire sociologiquement,
de tous les points de vue, mais l'armée aujourd'hui n'a aucune envie d'assumer la responsabilité du pays dans l'état où il est. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'armée a très peur de mettre la politique à l'intérieur de l'armée, parce que ça casse la discipline. Et pour l'armée, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc l'armée a clairement dit, pour nous, c'est la Constitution, rien que la Constitution. Si vous voulez changer la Constitution, il faut le faire selon la Constitution, hein, selon les procédures démocratiques. Et je pense que les militaires n'interviendraient au Brésil que s'il y a une tentative de passer par-dessus tout ça et de changer la Constitution de force, ça je pense qu'il y a, ou bien si le processus termine en espèce de grande violence politique généralisée. Là, bon, comme partout, elle interviendra. Mais pour l'instant, et Maud le sait très bien, le club militaire des officiers de réserve, depuis les années 30, c'est la base centrale de tous les plus réactionnaires possibles qui existent dans l'armée. Donc le club militaire n'est pas l'armée. Hein. En plus, il y a une chose assez rigolote aussi, c'est que pour vraiment faire un régime autoritaire, il faut commander l'armée, comme Chavez l'a fait au Venezuela, comme les militaires brésiliens l'ont fait en 64. Or, les généraux de l'armée ne seront jamais commandés par un capitaine, même si c'est un ex-capitaine depuis très très longtemps, et donc il n'y a pas de raison.
Oui, et il y a le vice-président.
Oui, mais le vice-président, maintenant, il est à la retraite. Donc, c'est plus le même...
Oui, qui a l'air d'un personnage aussi.
Et en plus, c'est un personnage complètement hors tout. Si le vice-président assumait la présidence, là, oui, on risque d'avoir une crise. Mais je ne pense absolument pas que, pour l'instant, en tout cas, l'armée ait la moindre intention de prendre la responsabilité de gérer un pays, pour l'instant, ingérable. Parce qu'on a des tas de choses à faire. Et on ne peut pas les faire simplement par des coups de force. Donc tout le monde le sait, ça. Mais moi, je pense qu'il faut être optimiste parce que les institutions brésiliennes, la société civile brésilienne sont très puissantes, les intérêts sont très diversifiés. Le Brésil est un grand pays avec des tas d'intérêts très diversifiés, extrêmement connectés, extrêmement informés. Et que je pense qu'on arrivera à trouver un moyen pour défendre les valeurs démocratiques. D'ailleurs, dans les derniers sondages, 70% des Brésiliens se prononcent en faveur des valeurs démocratiques. Donc je suis beaucoup plus optimiste qu'on le croit sur l'esprit des Brésiliens.
Monsieur Terry, et ce sera en guise de conclusion provisoire jusque donc à ce second tour qui aura lieu demain et dont on va guetter les résultats. Vous êtes aussi optimiste que Alfredo Valadao quant à la solidité des institutions démocratiques, alors qu'on voit que ce sont hélas ces mêmes institutions qui ont créé à la fois le trouble et le désordre politique et le désordre moral, si l'on peut dire, qui explique l'émergence d'un Bolsonaro.
Oui, je souscris assez à moyen terme, tout à fait. Effectivement, je crois que les choses sont installées et vont fonctionner. Et les Brésiliens sont effarés parce qu'ils ont pour une fois une campagne très radicalisée avec des insultes, etc. Je veux dire, en France, on fait ça depuis la Révolution française, à peu de choses près. Donc, il y a quand même eu beaucoup de violence verbale, mais il y a eu très peu de violence physique, Dieu merci. Il y a eu le coup de couteau contre Bolsonaro et quelques agressions ici et là, dans un pays de 200 millions d'habitants, où il y a eu 60 000 morts l'an dernier, c'est pas grand-chose. Et je serai quand même aussi assez prudent sur le résultat, parce que la montée de Bolsonaro à 46 s'est faite dans les tout derniers jours et a pris un peu de surprise la plupart des instituts de sondage. Et depuis 2-3 jours, on voit une évolution qui a à être en sens inverse. C'est-à-dire que le taux de rejet de Bolsonaro a monté beaucoup dans les derniers jours, notamment dans les classes aisées et éduquées, qui le soutenaient de façon un peu étonnante, et chez les hommes des classes de bas revenus. Donc je serai prudent, il y a encore 2-3 jours, j'aurais dit ça y est, c'est plié, je deviens un petit peu plus sceptique, je pense que ça reste très probable, mais je voudrais pas que dans 2 jours on dise qu'on s'est tous les 5 ou 6 complètement trompés.
Oui, ce serait mauvais pour tout le monde. Enfin, d'abord pour moi.
Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le Brésil, non, je pense. Mais soyons tout à fait prudents parce que c'est quand même un pays,
un pays
surprenant. Impulsif. Et je vais voler sa citation favorite à Alfredo en reprenant la citation du musicien Tom Jobim qui dit que le Brésil n'est pas un pays pour débutants. No es un país para principiantes. Excuse-moi Alfred, je t'ai volé ta citation.
Merci. Merci à tous. Donc merci à vous, Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié Le Brésil, pays émergé chez Armand Collin en 2016 et vous étiez avec nous en duplex depuis France Bleu à Lyon. Merci à Francisco Sintra qui était au téléphone depuis São Paulo. Merci aussi à Maud Chirio, qui elle était par téléphone depuis Rio et qui a publié il y a 2 ans La politique en uniforme, l'expérience brésilienne de la dictature. Merci à vous, Madame Enders, vous avez publié L'histoire du Brésil chez Chandaigne en 2016. Et je remercie bien sûr Alfredo Valadao, professeur à Sciences Po Paris. Vos derniers articles et analyses, notamment pour l'Institut Montaigne, seront sur notre site. Merci à Eric Scholl, Courrier International, à notre réalisateur Luc-Jean Reynaud, à Anthony Thomasson à la technique, Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, a préparé cette émission. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Frédéric Seyss. Très bon week-end à vous, à samedi prochain.